Métaphysique, Père Philippe, 27 octobre 1983, à Saint-Joseph.
On m'a posé cette question, alors je demanderai pour la réponse aux questions. Quand vous posez une question, vous avez raison, et de les mettre sur la table. Mettez si c'est la première année ou la seconde année ou la troisième année. Je ne vous demande pas de signer de votre nom, c'est inutile, bien que de temps en temps je reconnaisse ces écritures. Mais je vous demande simplement, parce que les premières années, je les renverrai toujours au frère Benoît. Et moi, je prendrai uniquement deuxième et troisième année. Vous voyez ? Donc, comme ça, il y a un partage. Et qu'on comprenne mieux. Les premières années, elles se posent des questions quelquefois que les autres ont déjà entendues. Alors, comme si je ne sais pas, j'y réponds. Est-ce que, après l'emploi, avec l'emploi des mots métaphysique, philosophie première, ontologie, au cours de l'histoire de la philosophie, le terme épistémologie ne ferait-il pas partie de la déclinaison des notions voulant désigner la philosophie première ? Le terme épistémologie veut dire justement le point de vue du logos de l'épistémé, c'est-à-dire le logos de la science. C'est un super logos, un logos au carré. Vous voyez bien, la science c'est déjà le logos, et le logos de la science c'est donc un super logos. C'est donc l'attitude réflexive. C'est donc l'attitude critique. Alors, dans la mesure où on a identifié critique et philosophie première, on identifie épistémologie. Le mot épistémologie va avec le mot critique. Il y a critique, épistémologie, philosophie réflexive. J'aime mieux dire philosophie réflexive, critique, que épistémologie. Parce que la philosophie réflexive est beaucoup plus vaste que l'épistémologie, comme nous le verrons. L'épistémologie, c'est une partie de la critique, mais ça fait partie de la philosophie réflexive. Alors, puisque je reviens là-dessus, je vous renvoie donc à une philosophie de l'être est-elle encore possible ? Signification de la métaphysique. C'est là où j'ai essayé d'étudier très rapidement, c'est une petite étude rapide, sur ces différents termes. Je dis ça pour ceux qui s'intéressent. Alors, à propos de l'ontologie, puisque c'est à propos de l'ontologie qu'il faut tout le temps revenir, le terme ontologie n'est pas de Wolf, page 55, la note 82. Le terme ontologie n'est pas de Wolf, mais de Klauberg. Ça vous intéresse beaucoup. Auquel Wolf décerne le titre d'optimus omnium confessione cartesii interpres. C'est très très joli. Donc, le meilleur interprète, hein, voilà, de tous, de la connaissance, même de ce que représente la connaissance à partir de Descartes. Et qui, en 1646, écrit dans sa métaphysique, donc, ce fameux Klauberg, écrit dans sa métaphysique, dont le sous-titre est « Ontosophia ». Je ne l'ai pas donné, parce que celui-là est tombé. Il est tombé dans les oubliettes. Mais c'est intéressant de voir que « ontologie » était d'abord « ontosophia ».« Ontologos »,« ontosophia ». Il y a, je cite, « il y a une certaine science qui contemple l'être en tant qu'il est être, c'est-à-dire en tant qu'on le comprend comme ayant une certaine nature commune, qui est à sa manière en tous et en chacun des êtres. Cette science est appelée vulgairement, métaphysique. Hein ? C'est le terme des bibliothécaires. Donc cette science est appelée vulgairement métaphysique, après la physique. C'est intéressant de voir ça. Donc en 1646, le terme métaphysique, c'est vulgaire, hein, c'est pas scientifique. C'est très intéressant, et c'est vrai, c'est très vrai. Métaphysique n'est pas scientifique, c'est vulgaire. Intéressant qu'en 1646, on dit ça. Mais à plus juste titre, ontologie. Alors, c'est qui est meilleur, ça. Ou science catholique. Ça, c'est merveilleux. Ça, j'aime beaucoup trouver ça. Ontologie est dit science catholique. C'est donc ou science catholique et philosophie universelle. Ça fait très bien comprendre, ça. Philosophie première, ça c'est un terme propre à Aristote, on doit le respecter. Puisqu'Aristote est celui qui a découvert la science du toon éon, de ce qui est en tant qu'être. Cette science de ce qui est en tant qu'être va être dénommée métaphysique. Au XVIIe siècle, on est un tout petit peu, hein, vous voyez bien, le XVIIe siècle est un peu précieux, c'est vulgaire. On ne reprend pas le terme d'Aristote. Le point, ontosophia. La sagesse de l'être. C'est très très joli du reste. C'est pas vrai, il n'y a pas de sagesse de l'être. Il n'y a de sagesse que de Dieu. Vous voyez la confusion, hein. C'est déjà très net. Ontosophia. Alors on dira ontologie, c'est plus juste. Le logos de l'étant. Mais alors, cette ontologie, c'est la science catholique. Déjà, vous voyez, déjà, le besoin de parler d'une philosophie chrétienne, cette démangeaison, hein, d'appeler une philosophie chrétienne. Alors on dira ontologie, science catholique et philosophie universelle. Est quidam scientia qui contemplatur ens quantum ens. Parce que c'est évident que c'est dit d'abord en. C'est dit en latin, c'est donc le scientia catholica, c'est extraordinaire, c'est dit en latin, c'est pas étonnant, scientia catholica. Donc, c'est pas la peine de continuer, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'ontologie, ce qui l'a mis en pleine lumière, c'est Wolff. Wolff, c'est un scolastique très particulier. C'est très important de comprendre Wolff, parce que c'est en face de Wolff que Kant a fait ses grosses attaques. Donc Kant n'a pas attaqué saint Thomas, il a attaqué Wolff. Et alors il y a Thomas d'Aquin, Wolff. Entre deux, comprenez bien, entre deux, Occam, Suarez. Il faut essayer de voir comment est né Wolff. Parce que Wolff représente une scolastique. La scolastique qui va distinguer, parce que c'est ce que fera Wolff, Wolff a distingué, c'est ainsi que Wolff divisera la métaphysique en ontologie et théologie naturelle, comme s'il s'agissait de deux sciences ayant chacune leur objet propre et leur propre finalité. C'est Wolff qui fait cela, qui fait cette division particulière. Il dira « ontologia, seu philosophia prima, est scientia entis ingenere, seu in quantum ens. » C'est aussi très intéressant de voir ce « in quantum ens » ingenere. L'ens ingenere, c'est « in quantum ens ». C'est juste inverse. Parce que « in quantum » veut montrer la compréhension, « ingenere », c'est l'extension. Alors, il y a une cassouillage, on ne peut plus rien comprendre. Quand on lit Wolff, on n'y comprend rien. Parce que c'est de la mélasse. C'est une métaphysique qui est dans la mélasse et qui est le point de vue de l'extension et le point de vue de la compréhension. Alors ça, c'est les lois les plus élémentaires de l'intelligence. Hein. Le in quantum, c'est une formalisation de compréhension. Ce qui est en tant qu'être, dans sa pénétration d'être, et non pas l'extension. Ça, vous comprendrez progressivement. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que Wolff, c'est l'auteur principal de la scolastique métaphysique. Et alors, on l'appellera ontologie à partir de ce moment-là. Donc, ceci, c'est un nota bene. Maintenant, continuons le cours. Essayons, après avoir vu le point de départ chez les philosophes grecs, d'essayer de comprendre quels sont les différents points de départ de la philosophie. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, c'est le livre du Père Maréchal, au point de départ de la métaphysique. C'est un livre, je crois qu'on l'a ici, je ne sais pas. Au point de départ de la métaphysique, c'est un livre intéressant, parce que c'est une grande histoire de la philosophie vue de cette manière-là. C'est sûrement un livre intéressant. On ne perd pas son temps à lire ça. Je ne vous dis pas de le lire tout de suite, hein, mais c'est intéressant, au point de départ de la métaphysique. Ça m'a donné l'idée de faire au terme de la métaphysique, parce que ça m'a semblé plus juste. On se sert toujours de ses prédécesseurs pour les corriger. Alors, au point de départ de la métaphysique, c'est très bien. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est au terme de la métaphysique. Parce que le terme de la métaphysique est explicite chez les philosophes. Tandis que le point de départ est très rarement explicite. Il y a très peu de philosophes qui ont dit « ma philosophie part de ce point-là ». Les Grecs l'ont fait. Puis après. Pourquoi ? Parce qu'entre deux, il y a eu les théologiens. Et la théologie a mûri la philosophie d'une façon très très curieuse, telle que après, vous voyez, Descartes dit le point de départ c'est le cogito. Mais quand vous regardez dans Kant, quel est le point de départ de Kant ? Cherchez le point de départ de Kant, c'est intéressant. Quand vous lisez un auteur philosophique, cherchez son point de départ. C'est très rare qu'ils le disent, très rare. Qui disent explicitement, nous partons de là. C'est important, parce que je ne peux critiquer quelqu'un, vous voyez, qu'à partir de son point de départ. C'est évident. Vous critiquez un forgeron en voyant qu'il y a le fer qu'il prend. Et puis vous critiquez qu'est-ce qu'il en a fait. Parce que c'est important de critiquer quelqu'un à partir du point de départ. Si vous ne critiquez pas à partir du point de départ, quel est le point de départ de Teilhard Chardin ? Intéressant de voir quel est son point de départ. Est-ce que c'est l'expérience ? Est-ce que c'est la science ? Donc, vous voyez la question que nous cherchons. Nous voyons que les philosophes grecs ont eu des points de départ très différents. J'essaie, dans une perspective de réflexion, de voir quel est le point de départ légitime. Alors, quel est le critère pour faire ça ? C'est de dire que tous les philosophes, tous ceux qui ont un peu de sang philosophique dans les veines, veulent que la philosophie soit exhaustive. C'est-à-dire qu'elle étudie l'homme dans sa plénitude et sa totalité. Aucun philosophe n'avoue son a priori au point de départ. Sauf Kant, qui dit qu'il y a des formes a priori. Mais les formes a priori de Kant sont objectives pour Kant. Donc ce n'est pas un a priori, c'est la découverte de l'a priori fondamental de tout homme. C'est ce qu'il veut faire. C'est faux, parce qu'il n'y a pas d'a priori transcendantal. Mais c'est intéressant de voir cette position-là, vous voyez ? C'est intéressant de voir ça. Alors comprenons bien que ce que nous essayons de voir ici maintenant, quels sont les points de départ ? Eh bien, si je regarde la philosophie grecque, nous l'avons fait, je vais maintenant simplement regarder le point de départ. La révélation, la mécanique parmi nous, l'inspiration, la réminiscence. Platon. Ça, c'est le point de départ. Platon, c'est la réminiscence. Rappelez-vous ce que vous avez vécu dans le temps, quand vous étiez auprès des dieux. Il n'y a pas de philosophie, ça va être sans rappel. Dans le dialogue du Ménon. Se rappeler qu'est-ce qu'on a été dans le temps. Quand vous étiez dans le berceau, rappelez-vous ça. Vous voyez, la réminiscence. La psychanalyse est à base de réminiscence. Il y a un lien avec Platon dans la psychanalyse, base de réminiscence. Rappelez-vous le premier moment où vous avez dit non. Tout va s'expliquer dans votre vie. Dans votre berceau, vous criez, le biberon n'était pas chaud, il faire vous attendre. Alors vous avez des petits transferts, et vous avez été fatigué de vos transferts, et ça continue. Et vous n'arrivez plus à trouver le... C'est comme ça, la réminiscence. La réminiscence joue un très grand rôle chez vous. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y aura l'expérience interne. Le premier Platon, le deuxième Platon. C'est vrai, le deuxième Platon, c'est l'expérience interne. Puis l'expérience externe. Aristote et Héraclite. Je crois qu'Héraclite, c'est la même chose. Mais c'est moins explicite chez Héraclite. C'est très explicite chez Aristote. Aristote dit explicitement, toute la philosophie commence par l'expérience. Empirion. Il faut bien comprendre ce que c'est que l'expérience. C'est l'expérience au sens fort. Qu'est-ce qu'il y a encore après comme autre point de départ? Il y aura le point de vue de la réflexion sur la conscience. Il y a la conscience qui peut me conduire vers une attitude critique. Une conscience critique. Qu'est-ce qu'il y a? L'opinion des autres. Je peux faire de la philosophie en commençant par l'opinion des autres. Je commence à réfléchir sur l'opinion des autres, et puis à partir de là, je fais ma propre philosophie. Voilà ce que dit Descartes, voilà ce que dit Descartes sur la liberté, voilà ce que Sartre dit sur la liberté, voilà ce qu'Épictète dit sur la liberté. On fait un bon petit cocktail. Puis à partir de là, on réfléchit. Donc à partir de l'opinion. Mais c'est au fond une topique, une histoire. L'histoire va devenir philosophique. Donc voilà, je crois, les différents points de départ. C'est pas pour rien qu'il y en a sept, oui. Sept points de départ. Hein. Je crois qu'on peut, légitimement, si vous en voyez d'autres, vous n'avez qu'à me le dire. Mais au fond, je crois que c'est sept points de départ qui ont existé. Alors, pas d'a priori. Je ne vais pas dire Saint Thomas a pris Aristote, nous prenons Aristote. Ce ne serait pas philosophique. Je pars de ce critère. La philosophie peut être exhaustive. Ça veut dire la connaissance que l'homme peut avoir de l'homme dans ce qu'il a de plus lui-même, donc dans toute sa totalité. Je crois que le propre de la philosophie, ça veut être exhaustif. Ça, il me semble que toujours, chez tous les philosophes, il y a ça. Ça ne peut pas être une connaissance particulière. Pour une connaissance particulière, alors c'est des spécialistes. Ça veut être exhaustif. Vraiment regarder l'homme dans toute sa totalité. Et ça cherche la vérité. La vérité, c'est justement cette préférence de la connaissance de l'homme tel qu'il est, tel que l'homme existe. L'homme qui existe, pas l'homme en soi, mais l'homme qui existe. L'homme qui est, c'est-à-dire moi, qui existe. Je veux me connaître parfaitement et totalement. C'est pour ça que je fais de la philosophie. C'est une connaissance la plus parfaite de l'homme. De l'homme dans sa relation avec l'univers, de l'homme dans sa relation avec l'autre, de l'homme dans sa recherche absolue. Je crois que c'est ça. Toute connaissance philosophique implique ces trois dimensions. Toute connaissance philosophique implique ces trois dimensions. L'homme dans l'univers, partie de l'univers, l'homme face à l'homme face à sa recherche d'absolu. Donc c'est toujours l'homme. Parce que cet absolu, je le découvrirai à partir de l'homme. Alors, ça je crois que je peux le dire. Tout le monde est d'accord avec ça. Il me semble. C'est la notion la plus nette et la plus simple de la philosophie. Si c'est ça, je vais à partir de là voir qu'il n'y a qu'un seul point de départ de la philosophie. Mais ce point de départ de la philosophie ne va exclure aucun autre. C'est ça qui est important. Alors que n'importe quel autre point de départ de la philosophie exclut. Ce point de départ, c'est la connaissance, l'expérience. Nous avons une philosophie de l'expérience de l'homme. Et quand je prends expérience externe, c'est l'expérience qui implique nos sensations. Ce que Descartes avait refusé. Et c'est là que tout de suite, dès le point de départ, nous nous mettons dans une position qui n'est pas celle de Descartes. Et disons, celle de Descartes ne peut pas saisir l'homme dans sa totalité parce que l'homme est un être sensible. Alors pour Descartes, l'être sensible, non, c'est pas l'homme. C'est que le cogito. Alors nous prenons ça comme... J'ai essayé de le montrer. Je ne peux pas partir de la révélation. Pourquoi? C'est beaucoup trop subjectif. Je peux avoir des révélations. Je ne les exclus pas. Je peux avoir des révélations. Je peux aller à Delphes et grâce à Delphes avoir un oracle qui vient me dire que la philosophie doit être la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. Ça me secouera très très fort, mais je n'aurai pas le droit de dire ma connaissance philosophique commence par cette révélation. Pourquoi? C'est beaucoup trop subjectif. Je peux être un artiste qui commence par la révélation. Mais le philosophe doit pouvoir parler à tous les hommes. Or, si je commence par la révélation, je me mets dans une situation privilégiée. Moi, j'ai eu cette révélation. Vous êtes dans la caverne. Moi, je suis sorti de la caverne. Grâce à la révélation, je suis sorti. J'ai eu cette chose extraordinaire d'avoir cette révélation. Tel jour, telle nuit, j'ai eu cette révélation. Et ça existe toujours un peu ça, vous savez, un rêve. Et à partir de là, toute ma vie. Mais le rêve, quoi, c'est subjectif. Je ne peux pas commencer la philosophie par la subjectivité parce que je m'enferme dans mon individualité. Je ne peux pas communiquer à tous les hommes. Il y aura un point de départ. Alors, j'exigerai aux hommes de me croire. C'est un toupet monstre. D'exiger aux hommes de me croire. Je n'ai pas le droit de faire ça. Parce que je regarde les hommes comme étant mes frères. Et je ne me mets pas au-dessus d'eux. Le philosophe est au service des hommes. Et donc il ne se met pas avec autorité sur les hommes. Non, aucune autorité. La seule autorité qu'il a, c'est dans la mesure où il atteint la vérité. Mais cette vérité qu'il atteint, il doit pouvoir la transmettre. Il ne doit pas la transmettre. Il ne l'impose pas. Vous pouvez me suivre, très bien pas me suivre. Vous verrez, on se retrouvera. Mais en fond, si j'ai découvert telle ou telle vérité, je sais comment j'ai découvert à partir de mon expérience. Et je peux vous la faire découvrir, et vous pouvez la découvrir, et vous pouvez prendre le même sentier, et vous serez libre. Vous ne serez pas dépendant. Oui, dans l'autorité, on impose. Je n'ai pas le droit de faire ça, au point de vue philosophique. Donc, ça ne peut pas être la révélation. C'est la même chose pour l'inspiration. Révélation et inspiration, ça se touche très fort. Toute révélation implique une inspiration. Toute inspiration implique une révélation. La seule différence, c'est que dans la révélation, je mets une source transcendante. Et dans l'inspiration, je mets une source immanente. Mais ça se touche. Inspiration et révélation, c'est quelque chose de subjectif. C'est moi. Je suis inspiré. Et c'est vrai, quand on est inspiré, on peut l'être. Après tout, c'est pas mauvais d'être inspiré. C'est bon d'avoir une inspiration poétique. C'est bon d'avoir une inspiration poétique. C'est pas mauvais du tout. Ça renouvelle un peu. Voyez. Inspiration qui a lui une intuition. Toute inspiration est un peu une intuition. Et toute intuition est une certaine inspiration. Une intuition poétique, une intuition artistique. C'est plus beau, l'inspiration, ça se touche. Donc, pour mettre intuition, je ne crois pas qu'on puisse mettre une nouvelle source, intuition, si vous voulez, deux bis, intuition, inspiration. Eh bien, c'est trop subjectif. Je ne les rejette pas, je ne les rejette pas. Si Dieu existe, il est normal que je reçoive de lui des illuminations. C'est normal. Si Dieu existe, il est normal que je sois inspiré de temps en temps et que j'ai des intuitions. Si j'ai un tempérament un peu artistique, j'ai des intuitions. Mais attention, je sais que c'est purement subjectif. Et je dois essayer de pouvoir les transmettre. Pourquoi les transmettre? Pour revenir à l'expérience. Tout ça, donc, est bon, mais la réminiscence, ça ne va pas très loin. Voilà les psychanalystes du berceau. Je ne peux pas commencer la philosophie par là. Parce que je n'ai pas à discerner le rêve de la réalité. Je n'ai pas à discerner la partie imaginative, la nostalgie que je peux. Quand je remonte à ma première expérience, mais tout à fait première, le premier biberon que j'ai eu. Vous vous souvenez de ça? Première expérience, le premier amour que j'ai eu par rapport à moi-même. C'est très, très vague. C'est très imaginatif. La première fois que vous l'avez regardé, vous avez souri. Vous savez, ça, c'est, si on appelle la photographie, ça reste. Mais c'est vous savez plus du tout. Votre premier sourire. À qui avez-vous votre premier sourire? Moi, je ne m'en souviens plus. Je ne peux pas faire de philosophie sur la réminiscence. La réminiscence, c'est très, très bien, mais au fond, je ne sais plus. Si le rêve, si les nostalgies, si l'imaginaire, c'est une philosophie de rêve. Alors, la philosophie de rêve. Ou des cauchemars, hein. Parce que c'est très tragique, la réminiscence. Si le cauchemar m'emporte dans mon jeunesse, j'avais une mère effrayante et un père encore pire. Hein. Je ne sais pas comment je suis sorti. Alors, vous voyez, c'est tragique. Alors, surtout, ne me mettez pas dans la réminiscence, parce que c'est tragique, ça. Et sortez de ce drame. Les rêves ou les cauchemars. Non, la philosophie ne peut pas partir de là. Ah, l'expérience intérieure. Oh, alors là, c'est beaucoup plus intéressant. C'est tout le grand courant des néo-platoniciens. Tout le grand courant des néo-platoniciens. C'est très, très important. C'est Augustin, de Platon, Augustin. C'est quelque chose de très, très important. Ça a eu une grosse, grosse influence au néo-platonisme. Et chez les modernes, ça existe. Hein. Est-ce que ma philosophie ne doit pas partir des expériences internes? L'expérience interne, vous voyez, j'aime. J'ai cette vérité, j'aime la vérité, je contemple, j'ai cette expérience interne. Toutes les expériences internes que vous pouvez avoir, quand vous réfléchissez un peu, c'est très très important, je dirais, là aussi. Le caractère subjectif est trop fort. Je ne peux pas commencer par là, parce qu'une une expérience interne, je ne peux pas la communiquer. Évidemment, les goûts et les couleurs, on ne peut pas discuter. Moi, j'aime le blanc, j'aime le gris, j'aime le bleu, j'aime l'écarlate. Hein. Ah, oui, très bien. Alors, je vais voir la philosophie de l'écarlate. C'est très bien. Mais au fond, c'est subjectif. C'est très très bien pour l'artiste, c'est très très bien pour une connaissance affective, mais ce n'est pas suffisant pour le philosophe. Ça reste trop subjectif. Alors, l'expérience externe, je peux la communiquer. Toucher du bois, ça se communique. Toucher de la pierre, ça se communique. Faites l'expérience, j'ai vu tel animal. Essayez de le voir, vous le verrez si vous, vous mettez dans telle situation, vous verrez. L'expérience externe, ça, c'est commun. L'expérience externe n'exclut pas l'expérience interne, absolument pas. N'exclut pas l'aspiration, n'exclut pas l'intuition, n'exclut pas la révélation. Ça n'exclut rien. Mais je comprends que tout ça n'est communicable que si ça passe par l'expérience externe. Dans l'expérience externe, qu'est-ce qu'il y a? Comprenons bien, je prends l'expérience externe ici au sens fort. Qu'est-ce qu'il y a dans l'expérience externe? Il y a l'intelligence, il y a les sens externes, il y a l'imagination, il y a l'affectivité. Tout est présent. C'est tout mon être qui est tendu vers la réalité. C'est l'expérience externe. Et nous verrons que dans l'expérience externe, l'intelligence est présente dans un jugement d'exister. L'intelligence est capable de dire ceci est. Et ceci, c'est dans l'expérience externe. Je ne peux pas le dire dans l'expérience interne. Je peux dire, oui, j'ai cet état affectif. J'ai ce sentiment d'aimer. J'ai ce sentiment de haine. Oui, je peux dire ça. Mais je ne peux pas avoir le jugement d'exister. Le jugement d'existence est quelque chose d'ultime. L'intelligence qui se sert des sensations pour atteindre la réalité. Mais l'intelligence qui se sert des sensations pour atteindre la réalité, il faut qu'elle se serve des sens externes. Puisque je touche la réalité comme le sens externe. Donc je prends l'expérience au sens très très fort. Ça, j'y reviendrai. On pourra en revenir parce que c'est très important. Je dis ça. Cette expérience externe est exhaustive. Parce que toute expérience interne présuppose une expérience externe. quand on a subi un accident. Vous pouvez raconter l'accident après, selon vos émotions. C'est vrai, vous pouvez raconter après. Mais ce qui est important, c'est de savoir si vous avez vécu cette chose-là. Après, ce sont vos émotions, c'est second. Donc, toute expérience interne repose sur l'expérience externe. Toute intuition repose sur l'expérience externe. Toute inspiration repose sur l'expérience externe. C'est autre chose, mais ça la présuppose. Vous n'avez d'intuition que dans des domaines où vous avez eu beaucoup d'expériences externes. Les voyages forment la jeunesse. Et c'est vrai, on a besoin de voir des choses variées et belles pour se former à certains sens des choses. On a besoin de connaître quand même certains philosophes, c'est pour ça que c'est nécessaire l'histoire de la philosophie, pour pouvoir discerner mieux où est la vérité. Donc on a besoin de ça, l'expérience externe. Je ne peux pas commencer par la conscience. Pourquoi ? Parce que c'est une attitude réflexive. Donc c'est une attitude seconde. Seule l'expérience interne et externe est vraiment une attitude première, fondamentale, sur laquelle tout repose. La conscience, c'est la conséquence. Voyez, ça, c'est Descartes, hein, la conscience. La philosophie de la conscience, c'est Descartes. Puisque c'est là où la certitude est la plus grande. La certitude implique la conscience. Au fond, la philosophie de Descartes repose, c'est une philosophie de la conscience. Tu vois, c'est très net. À partir de Descartes, on a parlé de la philosophie de la conscience. Et alors, la conscience est seconde, elle n'est pas première. Je ne peux pas baser ma philosophie sur la conscience. Les opinions, c'est très bien. C'est très très bien, les opinions des autres. C'est très important. C'est très important. C'est une source de réflexion, mais elle ne peut pas être première, parce que je ne peux pas, à travers les opinions, discerner quelle est la vraie. Sauf par affection. J'aime mieux Kant que Hegel. Donc ce que me dit Kant est mieux que ce que dit Hegel. J'aime mieux Nietzsche que Hegel. Donc ce que me dit Nietzsche. Vous voyez, il y a un halo affectif. Alors on aurait ces philosophes. Vous allez dire, c'est tout fait, vous aimez Aristote et vous jugez Hegel au nom d'Aristote. Non, vous voyez, c'est la même chose. Pourquoi j'aime Aristote? C'est parce qu'il a compris que la philosophie reposait sur l'expérience. C'est uniquement à cause de ça. Et sur l'expérience externe. Et donc il est celui qui, pour moi, a la plus grande ouverture. Plus grande ouverture, puisque c'est l'expérience externe qui, elle, a la plus grande ouverture. Elle ne s'oppose à aucun autre point de départ. Alors que tous les autres points de départ excluent celle-là. Si vous mettez en premier lieu votre philosophie de l'inspiration, l'expérience externe est seconde, elle n'a plus d'intérêt. C'est toujours en référence à l'inspiration. Si vous mettez en premier lieu l'expérience interne, l'expérience externe tombe, c'est second. C'est intéressant, mais c'est second. Donc il y a quelque chose qui tombe, tandis qu'au contraire, si vous prenez l'expérience externe comme point de départ, pas comme exclusivement, mais comme point de départ, vous pouvez assumer tous les autres commencements. Donc du côté exhaustif, hein, du côté exhaustif, je vois que seul une philosophie qui part de l'expérience externe n'exclut rien. Deuxièmement, au point de vue compréhension, une philosophie veut aller de rien exclu, du côté exhaustif, et aller le plus loin possible. C'est propre de la philosophie. Le philosophe n'accepte jamais d'être dépassé par quelqu'un. Jamais. S'il a le sens de la philosophie, il ne peut pas. Il ne peut pas dire, ah, la biologie va plus loin que la philosophie vivante. Pas du tout, la philosophie vivante va plus loin que la biologie. C'est bien évident, puisque c'est la philosophie du vivant. Tandis que la biologie, c'est une science particulière. Le philosophe n'accepte jamais d'être gratté par un autre. C'est ça le danger. Parce qu'alors, vous voyez l'orgueil du philosophe. Et oui, mais ce n'est pas parce qu'il est orgueilleux, c'est parce qu'il est objectif. Alors il ne veut pas accepter d'être dépassé par un autre. Il ne veut pas. Donc il veut aller le plus loin possible du côté de la compréhension. Et il doit aller le plus loin possible de la compréhension. Ah. Alors est-ce que l'expérience externe va me permettre d'aller le plus loin possible de la compréhension? Oui. Pourquoi? Parce que par l'expérience externe, je touche l'exister. Ceci est. Tandis que par l'expérience interne, je saisis quoi? Le vivant. Et dans le vivant, l'esprit. Or, du côté compréhension, tout présuppose l'être. Tout présuppose l'exister. Donc, je peux dire que seule l'expérience externe qui me fait toucher la réalité dans ce qu'elle existe me permettra d'aller le plus loin possible dans la compréhension. On reverra ça constamment. Hein. C'est le point de départ. J'essaie de comprendre à partir de quel point je vais essayer de démarrer ma philosophie. Alors, c'est possible de comprendre ça. Il faut le saisir. Il ne faut pas le dire parce que je vous le dis. Il faut vous-même vous faire votre propre conviction. Et si vous avez des objections, vous les écrivez. Est-ce qu'on peut avoir des objections affectives? Non, alors je ne sais pas, c'est ça. Il faut avoir des objections qui soient vraies, réfléchies. Cherchez, peut-il y avoir, je vous pose la question, peut-il y avoir un autre point de départ pour la philosophie, si cette philosophie veut être la connaissance la plus exhaustive et la plus compréhensible de l'homme. De l'homme dans ses trois dimensions. Est-ce que le point de départ peut être autre chose? Ça, c'est capital. Hein, c'est capital de comprendre ça. C'est pour en avoir la conviction intérieure, mais critique, hein, avoir secoué dans tous les sens et dire, mais oui, la philosophie ne peut être qu'une philosophie d'expérience. J'ai dit plusieurs fois à quelques-uns, je donne ça à titre d'exemple, parce que c'est intéressant, c'était, je prêchais au Carmel de Limoges. Au Carmel de Limoges, tous les prêtres ouvriers viennent se réfugier là, comme dans les oiseaux dans un grand arbre, n'est-ce pas, le tel jour, ça coïncidait. Alors le maire prieur m'a dit, est-ce que ça ne vous dérange pas de prendre votre repas avec tous les prêtres ouvriers du secteur? Je dis, très très bien, au contraire, je suis très content. Alors je me suis trouvé devant ces prêtres, j'étais en dominicain, ça faisait déjà quelque chose de particulier, bon, hein, mais dès le point de départ, elle me dit, alors où est-ce que vous êtes? Je lui dis, à Fribourg. Quelle philosophie enseignez-vous? Je savais très bien, ce qu'il y avait derrière, il y avait le lapin derrière. Je dis, mais alors là, quand on est comme ça, il faut tout de suite, c'est une tactique merveilleuse, c'est d'interroger. Mais monsieur, là, mon père, je ne sais plus trop bien, comme ils s'appelaient par leur petit nom, je les appelais par leur petit nom, parce que ça faisait partie du contexte. Alors Arthur, hein, mais la philosophie, il y en a plusieurs. Pour vous, il y a plusieurs philosophies. Donc, je l'ai coincé déjà. Il ne m'a pas dit qu'il y avait plusieurs philosophies. J'aurais demandé lesquelles. Il n'aurait pas su me les nommer toutes. Donc il dit, mais il y a plusieurs philosophies. Il a dit, oh, ben, je ne sais pas, je ne suis pas philosophe. Ben, il dit, mais non, il n'y a pas plusieurs philosophies. Il n'y a qu'une seule philosophie. Il n'y en a qu'une philosophie. Pourquoi êtes-vous prêtre ouvrier? Pour connaître l'ouvrier. Et moi, je fais de la philosophie pour connaître l'homme. Vous, c'est pour connaître l'ouvrier, et moi, pour connaître l'homme. Alors, voyez, vous n'allez pas assez loin. Parce que l'ouvrier, on ne peut le connaître que si on connaît l'homme. Vous êtes quand même, vous acceptez quand même que l'ouvrier est peut-être père de famille.
Ah oui, oui, oui.
Et vous faites attention à ça. Il n'y a pas que l'ouvrier, il y a l'homme aussi. Pendant tout le repas, on a discuté sur l'homme et l'ouvrier. Et ça avait, alors à la fin, il me dit, mais ça doit être très intéressant, une philosophie de l'expérience, qu'est-ce que tu dis là? Je comprends, c'est très intéressant. C'est le plus intéressant, parce que je vais plus loin que vous, voyez. Moi, j'ai un laboratoire de l'homme, vous avez le laboratoire de l'ouvrier. Alors, quand vous avez le laboratoire de l'ouvrier, quand vous mangez ici, vous n'êtes plus avec l'ouvrier, vous avez quitté votre laboratoire, donc il est très limité. Tandis que mais non, je vous vois, mais ça m'intéresse de voir cette espèce particulière d'homme qui est en train de devenir ouvrier. C'est quand même curieux. C'est un animal assez curieux dans le zoo. Je le taquinais comme ça. Ils étaient très amusants. Ils répondaient. Il jouait très bien le jeu, ça, si, il jouait très bien, il était merveilleux. Il jouait très bien le jeu, mais j'ai dit, voyez, il n'y a qu'une seule philosophie, la philosophie de l'expérience. Si vous voulez comprendre ce que c'est que l'homme, il n'y a qu'une seule philosophie, la philosophie de l'expérience. Comme vous, vous êtes fait prêtre ouvrier pour avoir l'expérience de l'ouvrier, à dire, oui, oui, ça c'est vrai. Bon, ben, c'est ça, vous voyez, donc je vous comprends. Alors comprenez-moi. Parce que c'est l'expérience humaine, et parmi les expériences humaines, il y a l'expérience du travail. Je suis tout à fait d'accord. Et ça fait partie de la philosophie de comprendre l'expérience du travail. Et de comprendre le travail dans telle ou telle circonstance. C'est très important. Mais ce n'est pas uniquement ça. Il faut aller plus loin. Parce que je ne peux pas identifier l'homme et l'ouvrier. Je ne peux pas identifier l'expérience humaine et l'expérience du travail. C'est deux choses différentes. Alors à ce moment-là, j'aurais fait comprendre... Parce que ça, il comprendrait tout de suite la différence entre l'expérience du psychanalyste, qui est l'expérience de clinique, et l'expérience humaine. On est très bien. Petit à petit, on est arrivé comme ça à faire comprendre qu'il n'y a qu'une seule philosophie. C'est ça la grandeur de la philosophie d'expérience. C'est que tout le monde peut la comprendre. Il suffit de réfléchir sur ses expériences. Ce n'est pas une philosophie d'information. Vous voyez, cette philosophie-là serait une philosophie d'information. Ah, il faut connaître Kant, il faut connaître Hegel, il faut connaître... Alors, on avancerait dans ces temps pis. Et on ne sait jamais tout, on ne pourra jamais avancer. Et puis, ça reste second. Mais c'est quand même très important, la philosophie des opinions. Ça reste très important. Je crois que nous devons dire qu'il y a deux sources à notre philosophie. Une première source fondamentale, l'expérience, et une seconde source, l'opinion des philosophes. Je ne peux pas avancer vraiment en philosophie sans avoir toujours ces deux choses. L'opinion des philosophes. Pourquoi ? Parce que je travaille en communion avec d'autres philosophes qui ont recherché la vérité, sont mes amis. Donc ça fait partie de mon laboratoire. Plus ou moins, parce qu'ils sont tellement nombreux que je n'arrive pas. L'Olympe philosophique, vous savez, c'est énorme. Pour Aristote, ça n'avait pas beaucoup, mais pour moi, il y en a. Hein. Pour nous, il y avait une quantité de philosophes. Alors, s'il faut tous les lire, hein, un jour, je vous amènerai le gros livre hein, sur l'Olympe philosophique. C'est intéressant de voir ça, parce que c'est intéressant de voir tous les philosophes qu'on peut nommer et tous les philosophes qu'on devrait rechercher. Et pas seulement l'Occident, mais l'Inde. Parce que c'est aussi ça. Alors, il faut regarder tous ces philosophes. Alors, si vous regardez tous ces philosophes, vous avez une indigestion philosophique avant de commencer à faire de la philosophie. Alors, vous avez un dégoût souverain de la philosophie avant de faire de la philosophie. Tandis que si vous commencez par l'expérience, ah, ça vous éveille. C'est vrai, j'ai une expérience humaine. Eh bien, je veux la comprendre. Et puis, cette expérience, elle a été comprise de diverses manières. C'est intéressant, parce que ça noue le problème. Et ça montre la difficulté du problème. Si des gens intelligents ont compris telle expérience de telle manière, moi je la comprends de telle autre manière, ça me pose un petit problème. Vous voyez ? La source, l'opinion des philosophes, est là pour souligner les problèmes, pour ne pas être simpliste. Parce qu'il y a un danger de la philosophie d'expérience, c'est d'être naïf. Oui, il n'y a que moi qui ai cette expérience. Alors au bout d'un certain temps, alors, pour ne pas se gonfler, il faut l'opinion des autres. Et l'opinion des autres nous aide à mieux comprendre que le problème est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Alors, c'est pour essayer de prendre une attitude critique, supprimant la naïveté. Mais l'attitude critique est toujours seconde. Le jour où l'attitude critique est première, vous stérilisez le terrain philosophique. Et là, il n'y a plus aucune intuition, il n'y a plus aucun progrès, et vous êtes uniquement l'ordre d'une méthode critique. Et quand on devient l'homme d'une méthode critique, il n'y a plus rien de vivant. Alors la philosophie doit rester vivante, parce que c'est ce qui est le plus vital en moi, c'est le développement de mon intelligence, c'est le développement de ma connaissance. Alors, vous voyez donc ces deux sources, l'expérience externe, l'opinion des autres. Et ceci n'exclut rien des autres. Mais je mets en lumière ces deux sources. Très important.